J'aimerais ce matin partager un passage de l'Écriture qui se trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 40 et à partir du verset 17. Exode chapitre 40 et verset 17, le dernier chapitre du livre de l'Exode. Le premier mois de la seconde année, le premier mois, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il en mit les socles, plaça les planches, mit les traverses et dressa les colonnes. Il étendit la tente sur le tabernacle et plaça la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il prit le témoignage et le mit dans l'arche. Il plaça les barres à l'arche et mit le propitiatoire au-dessus de l'arche. Il apporta l'arche dans le tabernacle. Il plaça le voile qui sert de rideau. Il en couvrit l'arche du témoignage comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il mit la table dans la tente de la rencontre, au côté nord du tabernacle, en dehors du voile. Il y disposa en ordre les pains devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le chandelier dans la tente de la rencontre, en face de la table, au côté sud du tabernacle, et il en arrangea les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça l'autel d'or dans la tente de la rencontre, devant le voile, et il y fit brûler le parfum aromatique, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle, de la tente de la rencontre, et il offrit l'holocauste et l'offrande, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel, et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entraient dans la tente et qu'ils s'approchaient de l'autel, ils se lavaient comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel et mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. J'ai bien dans la pensée que parmi nous, certains peuvent se dire, c'est quoi cette histoire? On parle d'objets, de tabernacles, d'espaces, et on se demande ce que ça peut vouloir dire. Qu'est-ce que c'est qu'un tabernacle? Qu'est-ce que c'est que le témoignage? Qu'est-ce que c'est que la tente de la rencontre? Qu'est-ce que c'est que cette cuve? Qu'est-ce que c'est que cet autel, etc. Comme diraient certains, c'est du vrai patois de Canaan. Et hormis les Juifs et quelques initiés, est-ce qu'on sait de quoi il s'agit? J'ai eu cette pensée de partager ce texte-là en Église, parce qu'il y a quelques semaines, j'ai entendu quelqu'un dire que l'Ancien Testament était finalement un profond mystère pour les croyants, et que finalement pour les chrétiens, la Bible commençait davantage au niveau du Nouveau Testament et des Évangiles, et que l'Ancien Testament était vraiment négligé dans les églises et dans les communautés chrétiennes. Est-ce qu'il faudrait se dire que finalement, il nous suffit de connaître Jésus-Christ révélé à partir des Évangiles, et que cette première partie de la Bible, nous l'enlevions, nous la mettions de côté, en nous disant, elle a peu de sens pour nous, elle parle davantage au peuple juif, puisque c'est la Bible juive, qu'à nous-mêmes, il nous suffit de connaître Jésus-Christ. Or, nous savons que le Seigneur nous a donné sa parole pour qu'elle nous parle aujourd'hui encore. La tentation est grande de prendre la parole et de la disséquer, de dire ça je prends, ça je ne prends pas. J'écoutais quelqu'un il y a quelques semaines qui apportait une parole à Genève et qui rappelait ce fait historique. C'est qu'en 1936, les nazis qui avaient fait le choix d'éliminer le peuple juif étaient bien en difficulté lorsqu'ils voulaient défendre, je dirais quand même, une certaine église et un christianisme purifié du judaïsme, de savoir que dans les églises, on lisait l'Ancien Testament, le livre des Juifs. Et donc, il y a eu en 1936 une une ordonnance de la part du parti nazi pour que les églises considèrent et proclament que l'Ancien Testament n'était pas inspiré et devait être donc à ce titre-là non retenu dans les Écritures et en tout cas écarté du culte en Allemagne. Je relisais quelques textes et notamment une encyclique qui a été faite par le pape de cette époque-là, c'était Pie, mais je ne sais plus le numéro. Voilà. C'était ou 11 ou 12. 12. 12. C'est la première encyclique d'un pape qui n'a pas été écrite en latin. C'est la première encyclique qui a été écrite directement dans la langue du peuple auquel elle s'adressait, c'est-à-dire en allemand. C'était très visé. D'habitude, c'est en latin pour dire c'est universel, même si parmi nous, peu connaissent le latin ou le lisent couramment. Mais là, à l'époque, il a dit c'est une encyclique qui s'adresse, et c'était pour réagir sur cette idée-là que le peuple juif était un peuple qui devait être persécuté, éliminé, et aussi pour maintenir dans l'Église des positions, en tout cas assez claires. Et il était dit, notamment, que cette écriture que nous lisons, elle est pleine et entière entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, en écoutant ces propos il y a quelques semaines, je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut nous encourager, nous motiver à lire l'écriture, y compris dans l'Ancien Testament? Et quand on lit ce texte que je viens de lire avec vous, certains peuvent se dire, oulala, compliqué de chez compliqué. Or, l'écriture tout entière révèle Jésus-Christ. L'écriture tout entière, depuis son premier verset jusqu'à son dernier verset, nous parle du plan de salut de Dieu. Ce qui, dans la pensée de Dieu et dans le cœur de Dieu, existe de toute éternité pour permettre à l'humanité de retrouver une relation avec son Dieu. C'est pour cela que l'Ancien Testament est important. Parce qu'il prépare l'humanité au travers de ce peuple choisi en Abraham à comprendre les mystères de Dieu et à se préparer à l'accomplissement du plan de salut de Dieu. Et l'Ancien Testament est éminemment une partie de l'Écriture qui nous prépare à comprendre qui est Dieu, qui est Christ, ce que Dieu fera en Jésus-Christ et ce que l'homme et la femme que nous sommes aujourd'hui peut comprendre des mystères de Dieu. Nous sommes dans la période des vacances et j'ai choisi un texte qui parle de camping. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés faire du camping, ont monté une tente cet été. Qui a monté une tente cet été? Ah! Ça ne m'étonne pas. Michel. Ah bah Valentin, un scout. Déborah, je ne t'ai pas vu lever la main. Tu n'as pas monté de tente. D'accord, ce sont les enfants qui montent la tente et après, toi, tu dors dedans. C'est ça, l'animatrice, elle regarde monter la tente. Déborah était dans un camp scout cet été avec Valentin. Ici, il est question d'une tente, la tente de la rencontre. De quoi s'agit-il? Il s'agit de cette période où Moïse, ayant libéré le peuple juif de la férule et de l'esclavage des Égyptiens, engage le peuple juif dans, je dirais, sa mission d'être le peuple de Dieu et s'engage vers la terre promise. Or, lorsqu'il y a cette démarche-là qui se met en place, où se tiendra Dieu au milieu peuple? Eh bien, Dieu donne à Moïse, au chapitre 25, 26 et 27 de l'Exode, les plans dans les moindres détails d'un temple portatif, d'une église portative, si nous voulons utiliser des termes que nous comprenons plus facilement. Un temple portatif qui se monte et démonte au gré des pérégrinations du peuple juif. Alors, c'était un temple qui était quasiment de la taille de cette église, peut-être même un peu plus, j'ai plus les dimensions exactes parce que j'ai les coudées dans la tête et pas les mètres. Donc, j'ai pas fait la transcription des coudées en mètres. Mais je me rappelle avoir vu en Suisse, il y a une vingtaine d'années, la reproduction du tabernacle et donc de la tente de la rencontre. C'est le même mot pour désigner le même objet. Et c'était impressionnant de le voir de manière visuelle avec son entourage en toile, avec ses poteaux, on y reviendra, avec les différents objets que nous venons de citer, l'autel des holocaustes, la cuve d'airain, et puis ensuite la tente de la rencontre elle-même, séparée en deux parties, avec l'autel avec des pains qui sont dessus, avec l'autel des parfums, avec le chandelier, puis dans la dernière partie, la partie où il y avait l'objet peut-être le plus étonnant, le plus précieux, et là, les plus jeunes, enfin peut-être pas les plus jeunes maintenant, qui ont vu Indiana Jones, savent ce que c'est que l'objet qui se trouvait dans cette dernière partie, c'est l'arche de l'Alliance, un coffre avec deux anges qui se font face, recouverts d'or, et à l'intérieur de ce coffre, trois objets. Il y avait les tables de la loi, le bâton d'Aaron, le frère de Moïse, et puis il y avait un pot avec de la manne, cette nourriture qui pendant 40 ans est tombée dans le désert pour nourrir le peuple. Voilà ce que c'est que la tente de la rencontre. C'est-à-dire que Dieu a prévu qu'au milieu de ce peuple en marche, il y ait cette tente qui manifeste visiblement la présence de Dieu. Mais cette tente-là, dans ses moindres détails, nous parlait aussi ou nous montrait qui est Dieu, qui sera Christ et quel est le chemin que le croyant doit faire pour aller à la rencontre de Dieu. Dans ses moindres détails, cette tente de la rencontre parle de cela. L'intérêt de lire ce texte, c'est que par des images, Dieu nous parle. Par des figures, Dieu nous instruit et nous dit, tu vois cet objet-là, cette image-là, eh bien, elle parle de ce que je suis pour toi. Cet élément-là parle de ce que je fais pour toi. Cet objet-là parle de ce que toi, tu peux faire avec moi. Et l'ensemble de la tente de rencontre est rempli de détails qui vont dans ce sens-là. Aie soin, dit Dieu à Moïse, de faire tout d'après le modèle qui t'a été monté sur la montagne, montré sur la montagne. Je ne sais pas comment Moïse a tout retenu, parce que si vous regardez au chapitre 25 du livre de l'Exode, c'est au poids et au centimètre près, avec des détails, avec des agrafes, avec des toiles de telle couleur, etc. Quand on voit qu'il a mis les tables de la loi et que c'est de la pierre gravée par le doigt de Dieu ou ensuite peut-être par l'homme, mais en tout cas, les tables de la loi gravées, je ne sais pas comment il a pris les notes. Il avait peut-être une bonne mémoire. Mais en tout cas, la tente de la rencontre était remplie de détails et Dieu lui a dit, fais attention, respecte bien tout d'après le modèle qui t'a été montré. Donc Dieu a dû lui montrer, lui donner une vision de ce qui avait été prévu et dire, tu fais vraiment cela dans tous les détails. Et nous verrons que chaque élément, chaque matière, chaque couleur a un sens qui nous parle de Dieu. Et elle nous parle aussi de Jésus. Le tabernacle est éminemment une préfiguration, une figure de qui est Christ qui sert d'intermédiaire entre l'homme et entre Dieu et avec Dieu. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, il est dit au chapitre 1, verset 14, que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Littéralement, en grec, il est dit: la parole a planté sa tente au milieu de nous. Le verbe skeno veut dire planter sa tente. Christ est venu planter sa tente au milieu de nous. Quelqu'un que je lisais, un commentateur, disait, il a tabernaclé. C'est-à-dire qu'il a été un tabernacle vivant au milieu des hommes. Et si nous faisons le parallèle entre ce que Jésus a été au milieu des hommes et le tabernacle, ce qu'il représente et ce qu'il veut dire de Dieu au peuple juif, eh bien, nous avons la réponse en Jésus-Christ. il a planté sa tente au milieu des hommes. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une histoire pour les enfants. Il a planté sa tente, il a décidé de descendre du ciel et de planter sa tente au milieu des hommes. Ça fait plaisir, Valentin, d'entendre parler de scout, d'un premier scout, hein, qui est venu planter sa tente au milieu des hommes. Oui, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Alors, lorsque, d'ailleurs dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8, verset 5, vous retrouvez cette phrase-là, « Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » C'est une ombre, une image. Et c'est bon d'avoir des images qui nous permettent de comprendre les choses. Jésus parlera par image lorsqu'il s'adressera à ses disciples, avec des paraboles, des histoires qui nous permettent de comprendre qui il est et ce que Dieu veut faire. Alors, si nous reprenons cette image du tabernacle, il s'agit en grande partie d'une grande tente mise au milieu d'un espace qui est délimité par des poteaux et par du lin qui sépare le camp d'Israël et cet espace consacré à Dieu. Alors, j'aimerais déjà parler du camp, c'est-à-dire de ce qui est en dehors. Le camp d'Israël était à distance du tabernacle. Ça veut dire que quelque part, on ne se collait pas au tabernacle en se disant « ça fait partie de notre... espace de vie ». Non, il y avait comme une distance qui était une distance qui parle de cette peur, de cette crainte respectueuse que le peuple avait quand Dieu était au milieu du peuple d'Israël. Ce n'était pas, je dirais, du copinage. Et parfois, même si nous appelons Dieu notre Père, il serait bon aussi de réfléchir à la crainte respectueuse qui devrait habiter le cœur de chacun des enfants vis-à-vis de son père. Je ne sais plus quel acteur, hier, on regardait la télévision, qui représente une force, etc. On lui disait, est-ce que vous avez peur de quelqu'un? Et il a répondu, oui. C'était Teddy Riner, le champion, 8 fois champion du monde, voilà. 8 fois champion du monde de judo cette semaine. Et quelqu'un lui disait, mais à 26 ans, 8 fois champion du monde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous fait peur sur la Terre? Et il a répondu, oh non, moi, quand je, en tant qu'homme, maintenant, personne ne me fait peur. Sauf ma mère. Sauf mon père. On peut par la foi dire « je ne crains rien puisque je suis victorieux en Jésus ». Mais il n'empêche qu'il serait bon que nous cultivions aussi le respect, la crainte respectueuse qui nous lie à celui qui est notre Dieu et notre Père. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, dit l'Écriture. « Boreshit Rochma Yirat Yehovah ». Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Le camp était à distance du tabernacle. Est-ce que nous avons cette crainte respectueuse? Et puis, il y avait cet espace en dehors et cet espace en dedans. Ça veut dire aussi qu'il y a, frères et sœurs, un espace dedans avec Dieu qui fait partie du royaume de Dieu et il y a un espace qui est en dehors. Le camp, c'était ceux qui souhaitaient ou qui aspiraient entrer en relation avec Dieu, ou peut-être certains, pas du tout, comme aujourd'hui. Contrairement à ce que certaines théologies libérales peuvent évoquer, il n'y a pas de partie, une sorte de no man's land. Il y aurait le peuple, le royaume de Dieu, et puis le monde, et puis entre les deux, un espace plus ou moins flottant et fluctuant. Il y a un pasteur que j'aime beaucoup qui vit toujours, même s'il est très âgé, me semble-t-il, c'est Alfred Kuen, qui a eu un ministère d'enseignement très fort, et même si aujourd'hui il est peu il est peu lu, mais c'est quelqu'un qui, au début de son ministère d'enseignant, a écrit un livre qui s'appelait « Je bâtirai mon Église ». Et dans ce livre, il évoquait le fait que dans le royaume de Dieu, il y a deux camps, celui de Dieu et celui de l'adversaire. Il n'y a pas de camp intermédiaire. Et il terminait sa réflexion en disant « Il y a le camp de Dieu, il y a le camp de l'adversaire, choisis ton équipe. » Choisis ton équipe. Et aujourd'hui, la question se pose toujours. Il y a le royaume de Dieu et il y a le camp de l'adversaire. Dans quel camp souhaites-tu jouer ta vie et ton éternité? Je ne sais pas comment Kuen aujourd'hui vit, lui qui était d'origine luthérienne, le choix des luthériens d'accepter l'union et la bénédiction, en tout cas des homosexuels. Certainement qu'il doit se poser la question en se disant quel est le camp, quelle est la limite, quelle est la limite entre ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Or, dans le tabernacle, il y avait une limite. Et cette limite, elle était faite par 56 poteaux. 56 poteaux qui étaient fixés sur des blocs d'airain. Et il y avait une toile de fin lin blanc retors qui reliait tous les poteaux, sauf du côté est où il y avait un voile. Mais tout le restant était fermé par un voile de fin lin blanc retors, c'est-à-dire du lin où les fils sont tressés entre eux avant d'être tressés ensuite. C'est-à-dire que c'est un lin, c'est une bonne toile de tente, une bonne séparation entre l'espace du tabernacle et l'espace du monde, du camp, de ceux qui veulent ou ne veulent pas rentrer à la rencontre de Dieu. Les autres endroits où on parle de fin lin retors, c'est la matière qui constitue les vêtements des sacrificateurs. Ça veut dire de ce qui est consacré. Cet espace qui est clôturé, fermé par des grands poteaux avec un voile, et j'avais beaucoup apprécié de voir ça en Suisse, de voir cet espace clôturé, on disait, il y a un dedans, il y a un dehors. Et il y a ce fin lin qui marque la limite entre ce qui est du monde et ce qui est de Dieu. Il y a une limite. Et Dieu nous parle ainsi de cette nécessité que nous avons, nous aussi, dans nos vies, à laisser le Saint-Esprit nous instruire de ce qui est du royaume de Dieu, de ce qui est bon et agréable à Dieu, et de ce qui est de l'esprit du monde et de l'adversaire. Si nous lisons les épîtres de Paul, Paul parlera aux églises à nombreuses reprises de ce qui est de l'esprit du monde, dont nous devons nous débarrasser, de ce qui est de la chair, de ce qui est de l'homme qui doit diminuer pour que Christ grandisse. Est-ce que nous sommes prêts, nous aussi, comme dans cette image du tabernacle, à accepter que Dieu pose des limites dans nos vies en disant « Cela, c'est de ma volonté, cela, c'est du royaume de Dieu, et cela, c'est du dehors. » Où sont les limites? Et nous voyons bien que dans l'histoire de l'Église au travers des temps et les derniers événements qui ont bousculé le protestantisme en France montrent que l'Église a parfois du mal à placer les limites et à dire « Voilà, cela c'est de Dieu et cela, ça n'est pas de Dieu. » Cette limite, enfin l'un, ça nous parle aussi de la robe de Christ qui était faite d'une seule pièce et qui était à l'image de ce vêtement des sacrificateurs. Une annonce que là est quelqu'un qui est consacré à Dieu. Là est quelqu'un qui parle et agit au nom de Dieu. Voilà qui est Christ. Voilà quel est cet espace qui est encerclé par ce fin lin. Il y avait 56 poteaux pour arriver. T'imagines? Le petit scout là-bas au fond. 56 poteaux. Et alors, je me suis intéressé à ces poteaux parce que Ces poteaux, c'est ce qui servait à délimiter ce qui était du tabernacle et donc de l'espace où Dieu se révélait de l'extérieur. Et j'ai lu dans un commentaire que chaque poteau reposait sur un bloc d'airain, et qu'on estimait entre 60 et 80 kilos chaque bloc pour tenir le poteau. Ça veut dire que ce voile, cette ligne de lin était accrochée avec des agrafes sur ces poteaux, et les poteaux étaient reposés sur un bloc d'airain de environ, on dit, 60 à 80 kilos. J'ai calculé, ça fait 4460 kilos de blocs. Ça donne une idée, les petits scouts, là, pour construire la tente de la rencontre. 4460 kilos à poser pour mettre le poteau, pour mettre la limite. Et dans le judaïsme, certains ont interprété, ou en tout cas, on dit, ben, cette figure-là, qu'est-ce qu'elle représente? Et pour, dans le judaïsme, certains disent, ben, ça représente les prophètes, les hommes de Dieu, qui sont là et dont le poids fixe les limites de ce qui est du monde et de Dieu. Moi, j'aime beaucoup cette image. Chaque socle, chaque poteau, ces 56 socles, représentent les ministères qui sont là pour dire « Voilà ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Quelle est la doctrine? Quel est le contenu de la foi ?» J'aime beaucoup cette image-là, parce que l'apôtre Paul parlera de ceux qui peuvent être entraînés à tout vent de doctrine. Et certainement faut-il dans l'Église des hommes et des femmes qui aient des services et des ministères qui fixent les limites de ce qui est de Dieu et de ce qui n'en est pas. Sans doute faut-il aussi des chrétiens qui soient solides, lourds. Vous savez que la lourdeur dans en hébreu, c'est la gloire. La gloire parle du poids de Dieu. C'est ce que me disait notamment Henri Léon Vaucher, notre professeur d'hébreu, disait, la gloire, ce n'est pas quelque chose comme ça de vaporeux, hein, comme on peut l'imaginer, ça parle du poids de Dieu. Est-ce qu'il ne faut pas du poids dans nos vies, dans nos convictions, dans nos certitudes posées par Christ et le Saint-Esprit dans nos vies pour dire quelles sont les limites du monde et de la vie avec Dieu, du royaume de Dieu? Sans doute manquons-nous parfois de ce poids-là dans notre société, au point que la société puisse se dire « Mais qu'est-ce qui fait la différence entre les chrétiens et les non-chrétiens ?» S'il n'y a pas ce poids-là qui dise « Voilà où sont les limites du royaume du monde et du royaume de Dieu. » Ces socles, ces poteaux, cette limite de fin-là. Et puis, c'était pas clos entièrement, parce qu'il fallait bien rentrer. Alors, il y avait trois voiles. Le premier voile qui était sur le côté est, c'est-à-dire qu'on entrait, moi j'aime bien le dire comme ça, mais on entrait par l'Orient, dans le tabernacle. On rentrait par, dans le temple aussi, me semble-t-il. La disposition était orientée de la même manière, mais on entrait par l'Orient. Et il y avait, dans l'entourage en lin, une partie où il y avait un rideau. Et ce rideau de fin lin, toujours, avait une particularité, comme les autres rideaux successifs, c'est qu'ils étaient à la fois en fin lin et qu'ils étaient associés à trois couleurs. Il y avait toujours du bleu, du pourpre et du cramoisi. Tout était en fin lin uniforme. Puis là, le premier rideau dans cette partie donc, qui entourait le tabernacle, et il y avait un rideau qui permettait d'entrer. Qui rentrait là? Rentraient là les Lévites ou ceux qui avaient le désir de rencontrer Dieu et de rentrer dans une démarche bien précise. Ça ne se passait pas comme ça, les deux mains dans les poches, on disait « Ah oui, tiens, je vais aller rencontrer Dieu aujourd'hui, j'ai 5 minutes, je ne sais pas trop quoi faire. » Non, non, il y avait à l'intérieur du tabernacle toute une démarche qui était proposée par Dieu pour comprendre ce que c'était que le sérieux du plan de salut. Ça supposait quoi comme disposition de cœur? Ça supposait quoi comme œuvre accomplie par Dieu, mais aussi comme démarche du croyant? Alors ceux qui passaient là, c'était soit ceux qui travaillaient à l'intérieur, les Lévites, et puis les croyants qui souhaitaient offrir un sacrifice. Alors ils passaient par ce premier voile avec ses trois couleurs. Le bleu qui désigne le ciel, c'est-à-dire la dimension céleste, et qui dit ceci, ben voilà, ce Dieu que nous allons rencontrer habite dans les lieux célestes et règne dans les lieux célestes. Et ça nous fait penser à ce passage d'Hébreux 9, 11. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Christ a accompli, je dirais, ce que ce tabernacle représentait. Il est rentré. Il a franchi ce voile et la couleur bleue dit « Notre Dieu règne ». Quand les disciples disent à Jésus, mais apprends-nous à prier. La réponse de Jésus, c'est de dire, eh bien, quand vous priez, dites ceci. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est au ciel, c'est celui qui règne dans les lieux célestes. Et ceux qui rentraient dans le tabernacle, dans cette partie, alors ce qu'on appelle le parvis, c'est la partie où il y a voilà, tout autour de la tente qui est au fond. Ceux qui rentraient dans ce parvis, rentrer en se disant « Je rentre pour rencontrer ce Dieu qui règne dans le ciel de toute éternité. » Cette couleur bleue désigne Christ aussi et sa nature céleste, sa nature divine. Le psaume 119, verset 96, on ne le lit pas beaucoup le 119, hein, parce que le soir quand on lit un psaume, on se dit on va en prendre un qui n'est pas trop long, le 119... On est endormi avant d'arriver au bout. Mais il a une phrase que j'aime beaucoup, c'est au verset 96. « Je vois des bornes à tout ce qui est parfait, mais tes commandements n'ont pas de limites. » Je vois des bornes, des limites à tout ce qui m'entoure, tout ce qui est parfait a des limites, des bornes. Mais toi, tes commandements n'ont pas de limites. Et voir cette couleur bleue, c'est de se dire « Je vais rencontrer le Seigneur, l'Éternel, qui n'a aucune limite. » Est-ce que nous sommes prêts, lorsque nous rencontrons Dieu, à le voir dans cette perspective, dans cette pensée, ce Dieu sans limite? Le pourpre, ça désignait habituellement la couleur royale. Il y avait du pourpre sur ce rideau. Il est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est assis sur le trône et il règne. Alléluia! C'est cela la dimension de cette couleur qui nous parle de Christ et de Dieu. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui règne maintenant. Est-ce que lorsque je rentre à la rencontre de Dieu, je me dis, je vais rencontrer celui qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Parce que si c'est le cas, je ne peux pas venir vers Christ en lui tapant sur l'épaule, en disant, voilà, t'es mon frère. Oui, il l'est, mais il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Alléluia! Alors lorsque je vois cette couleur pourpre, je proclame que Jésus est pour moi mon Seigneur. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que je veux qu'il le soit quand je vais rentrer à côté ou au travers du parvis vers le lieu saint et le lieu très saint? Et puis il y a, moi, une couleur que j'aime beaucoup, c'est le cramoisi. Le cramoisi. Parce qu'en fait, le cramoisi, c'est une couleur qu'on a utilisée beaucoup dans la peinture jusqu'au début du XXe siècle, de la même manière qu'autrefois. Là, vous pourrez parler avec certains qui ont fait des études d'art, comme Juliette, hein, qui vous parlera des couleurs, etc. Et le cramoisi qui était sur ce rideau où on rentrait dans le parvis pour aller vers Dieu, eh bien, c'est un mot en hébreu qui est en fait un mot qui désigne un ver, une sorte de petit insecte que l'on écrasait et qui fournissait, et qui a fourni longtemps, cette couleur cramoisie. C'est d'ailleurs un ver qui est une des richesses du Pérou, puisque c'est là-bas on en trouve beaucoup. Et donc, on élève pour pouvoir fabriquer cette couleur cramoisie. Et ce vert, c'est le Coccus silicis. Je ne vous demande pas de le retenir. Mais c'est un vert qui a une particularité, c'est que la femelle de ce vert, qui fournit la couleur écarlate, quand elle est prête à pondre, déjà j'aime bien raconter cette histoire, même si je l'ai racontée, elle s'attache sur un tronc d'arbre de façon complètement ferme et permanente, et elle garde les œufs en dessous d'elle, de sorte que finalement, elle va mourir au-dessus de ses œufs, et que cette couleur qu'elle a en elle va teinter le bois de l'arbre de rouge écarlate. De cramoisie. Et quand elle meurt, le bois devient entièrement rouge. C'est de cela que l'on tire la teinture pour faire le cramoisi. Il faut qu'il y ait un vert qui meurt et qui donne sa vie pour donner cette couleur-là. Est-ce que ça ne nous fait pas penser à Christ, à l'image du Christ mourant sur le bois ? Versant sur le bois son sang pour que nous puissions avoir la vie et la vie éternelle. Une image pour décrire son humanité, son humiliation jusque dans la mort, même si lui n'a pas connu la corruption et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Le cramoisi. Est-ce que je franchis pour aller vers Dieu, le voile qui me montre et qui me révèle que Christ s'est fait homme, qu'il s'est humilié et qu'il a versé son sang. Il y a dans un psaume, le psaume 22, voilà. Le psaume 22, juste avant le psaume 23 qui parle, l'Éternel est mon berger, le psaume 22 parle du Messie à venir, mais du Messie souffrant. Est-ce que vous vous rappelez de... On peut le relire juste... Quelques versets du psaume 22, parce qu'il parle justement de cela, et l'auteur du psaume 22 dit ceci, eh bien, c'est David, donc l'ancêtre de Jésus, qui dit ceci, « Et moi je suis un ver et non un homme, le déshonneur des humains et le méprisé des peuples, tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent les lèvres et hochent la tête. » De nombreux taureaux, verset 13, m'entourent, et puis, etc. Et il y a ces versets 16, « Ma force se dessèche comme l'argile, ma langue s'attache à mon palais, tu me réduis à la poussière de la mort. » Or, lorsqu'il dit dans ce verset « Je suis un ver », eh bien, il utilise le même mot qui parle de ce ver qui donne le cramoisi. « Je suis un ver qu'on va écraser, qui va donner son sang. » pour que vous ayez la réconciliation. Les trois couleurs de ce premier voile, et les deux autres, celui qui va être situé à l'entrée du tabernacle et qui donne accès au lieu saint, est porteur des mêmes couleurs. Et celui qui est dans le lieu saint et qui donne accès au lieu très saint, porte ces trois mêmes couleurs. Il n'y a pas, frères et sœurs, de rencontre avec Dieu si nous ne rencontrons pas celui qui est descendu du ciel et celui qui règne maintenant. Si nous ne rencontrons pas celui qui est le Sauveur et le Seigneur, le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. Et si ce n'est pas celui qui a donné son sang pour que nous ayons la vie et que notre cœur puisse à nouveau rencontrer le cœur du Père. Le tabernacle est une image de ce qu'est Dieu, de ce qu'est l'œuvre de Dieu. Mais il parle aussi de l'itinéraire du chrétien et du croyant. Et je terminerai juste en allant très très vite sur cet itinéraire. Lorsque le croyant rentrait dans le parvis, c'est-à-dire dans l'espace réservé à ceux qui voulaient ou devaient rencontrer Dieu, c'était à la fois les Lévites, mais c'était aussi les croyants qui venaient faire un sacrifice. Or, le premier objet sur lequel, entre guillemets, il butait, c'était l'autel des sacrifices, un autel, quelque chose de 1,30 m à peu près, 2 mètres de large avec des grilles pour mettre la viande, etc. Et on y sacrifiait les animaux. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de possibilité d'accéder à ce qui est tout au bout Parce que c'est bien l'objectif des uns et des autres, des croyants de l'Ancienne Alliance comme ceux d'aujourd'hui, c'est de rencontrer le Père, de rencontrer Dieu. Eh bien, on ne pouvait pas aller là-bas, au bout, sans d'abord passer par l'autel des holocaustes, par l'autel des sacrifices. Il n'y a pas d'accès à Dieu sans que la mort soit là d'abord pour régler la question du péché. Parce que c'était cela le sens de l'autel des holocaustes. Est-ce que nous sommes, nous, en tant que chrétiens, constamment avec cette révélation en nous, de cette exigence que c'est d'abord par la mort qui règle la question du péché que nous pouvons continuer à aller vers Dieu? Si, et c'est peut-être là une des fragilités des croyants et de l'Église, c'est d'oublier si facilement ce qui a été accompli et qui rend possible la continuité de la marche vers Dieu. Et après, il y avait, après l'autel des holocaustes, eh bien, il y avait la cuve d'airain. Alors, c'est vrai que celle du temple, je n'ai pas repris les dimensions, mais était immense. Hein. Je ne sais pas, peut-être que Yael, tu l'as calculée ben, un jour, mais elle était... celle-ci, c'était une cuve où, en fait, les sacrificateurs, ceux qui avaient fait les sacrifices, se lavaient et les mains et les pieds. Parce que, un sacrifice, ça fait couler du sang, ça gicle, ça éclabousse. C'est loin d'être quelque chose de bucolique, une image comme ça, quand on regarde les tableaux de la Renaissance avec le Christ en croix, on se dit, waouh, c'est beau. Ouais, c'était pas ça. Il faut savoir que le supplicié, si vous relisez le psaume 22, je vous invite à relire le psaume 22 qui parle de la crucifixion, bien des siècles avant qu'elle ait lieu, eh bien, vous voyez que c'est quelque chose d'horrible. Eh bien, après ce sacrifice, il y avait la cuve où on se lavait de tout ce qui avait été souillé. Et cette cuve est une image de quelque chose dont nous parlons tellement peu dans l'Église. Ça s'appelle la sanctification. Lorsqu'on prépare, et Michel aime bien, lorsqu'on prépare quelqu'un pour le baptême, il aime bien dire, d'abord il y a la justification. Vous savez, c'est cette part de Dieu qui justifie l'homme par le sacrifice de Jésus-Christ. Je ne peux rien faire. Ou alors, il faut que je retourne dans l'Ancienne Alliance, je retrouve le temple de Jérusalem, que je fasse un sacrifice. Non, ça n'existe plus. Le seul moyen d'être justifié, c'est d'être au bénéfice de ce sacrifice permanent et perpétuel. D'accord ? Quand je rentre dans le tabernacle, eh bien, je rentre et je suis confronté à l'autel. Je suis justifié. La deuxième étape, c'est la cuve. Et là, je me lave de tout ce qui m'a sali. C'est une représentation de la sanctification à laquelle nous sommes tous appelés. Et il y en a tant qui s'arrêtent après l'autel des sacrifices. Je suis sauvé. Je suis justifié. C'est merveilleux. J'ai la vie éternelle. Ah ouais ? Tu ne vas pas plus loin ? Parce que Dieu t'invite à aller plus loin. Et l'étape après le fait d'être justifié, et ça, Michel vous l'enseignera si vous faites votre préparation avec lui au baptême, il dira, l'étape suivante, c'est la sanctification. C'est d'être transformé de gloire en gloire à l'image de Christ. Alors ça, qui est-ce qui est prêt à être transformé de gloire en gloire? Qui est prêt? Levez la main, ceux qui disent, ouais, moi en gloire, ouais. Eh bien, je vous souhaite du plaisir. Parce que ce n'est pas simplement de gloire en gloire. J'ai entendu une prière ce matin qui disait, mais si j'accepte d'être transformé, tu vas toucher des choses en moi. Tu vas aller dans des coins qui ont été blessés. Tu vas vouloir enlever des choses qui sont de l'ordre du péché ou de fausses croyances. Ça ne va pas être confortable. Nous serons transformés, nous sommes transformés de gloire en gloire. Mais l'œuvre de l'Esprit-Saint demande bien souvent à ce que nous nous séparions, à ce que nous vivions avec une certaine douleur dans laquelle le Seigneur nous accompagne, de ce qui n'est pas pur, saint, à son image. La cuve d'airain représente cela. Et alors, une fois qu'on est rentré dans cette sanctification à laquelle nous sommes tous appelés, on peut enfin rentrer dans la tente qui est au bout. Et on traverse à nouveau ce voile avec du bleu, du cramoisi et du pourpre. Et là, on tombe sur la table des pains de proposition, qui est à la fois une table où celui qui rentre, le sacrificateur, parce que ce n'était pas n'importe quel lévite, c'est celui qui était installé dans une charge de sacrificateur. Et qui peut y rentrer aujourd'hui ? Ben, nous tous, puisque nous sommes tous prêtres et sacrificateurs. Et cette table de pain de proposition, on pouvait, je dirais quelque part, elles étaient là pour Dieu et pour les sacrificateurs. Et quelque part, c'est une manière de dire, mais est-ce que Dieu est devenu ma nourriture ? Est-ce qu'il nourrit ma vie tous les jours ? Quand je rentre dans la table de proposition, dans cet espace-là dans lequel les sacrificateurs rentraient chaque jour, eh bien, on pouvait voir ces pains qui étaient renouvelés tous les jours. Il y en a un qui a mangé ces pains, c'est David. À un moment donné, où il était en combat, et puis il avait faim avec ses hommes, et puis il a osé manger les pains de proposition. C'était aussi une préfiguration du fait que nous sommes appelés, nous aussi, à nous nourrir de Dieu. Repensons à l'évangile de Jean, avec le Christ qui dit « Je suis le pain de vie ». Est-ce que je rentre dans le tabernacle aujourd'hui, dans ma vie avec Christ, en disant « Je me nourris de Dieu tous les jours ». Ou bien est-ce que je reste en deçà, je ne vais pas jusque-là. Oh, je suis pardonné, justifié. Oh, je me sanctifie. Mais est-ce que je me nourris de Dieu tous les jours ? Et puis, il y avait un autel des parfums qui était là et qui était où le sacrificateur déposait de l'encens qui brûlait et qui montrait que aller vers Dieu, c'était aussi dans la louange, dans l'adoration, dans la prière. Est-ce que je fais monter un parfum qui était agréable à Dieu dans cette partie-là du tabernacle ? Est-ce que c'est le cas aujourd'hui dans ma vie ? Si ce n'est pas le cas, si je ne prends pas du temps pour louer Dieu, pour l'adorer. Alors certains ont certainement un ministère ou un service plus particulier dans la prière, dans l'intercession. Mais nous sommes tous appelés à faire monter un parfum de bonne odeur auprès de notre Dieu pour lui dire tout ce qu'il est, tout ce qu'il représente. Et puis, il y avait un chandelier d'or martelé et qui disait « Il est ma lumière ». C'est ce qu'a dit « Je suis la lumière du monde », dit Christ. Est-ce qu'il est cette lumière-là dans ma vie ? Est-ce que je suis dans le tabernacle avec cette conscience que jour après jour, il est celui qui éclaire ma route ? Ou bien est-ce que j'utilise des lampes portatives de ce monde pour éclairer et savoir où je dois aller, ce que je dois vivre ? Et enfin, le dernier voile donne accès au lieu très saint, l'arche de l'Alliance. Cette arche où il y a le propitiatoire. On est propitiatoire, c'est le couvercle de l'arche avec ses deux anges et le grand sacrificateur qui venait une fois par an mettre du sang pour son péché, le péché du peuple, et s'approcher de Dieu une fois par an. L'Épître aux Hébreux nous dit ce texte merveilleux, Jésus-Christ a ouvert un chemin nouveau et vivant au travers du voile. Et c'est ce voile-là qui s'est séparé de haut en bas. Il ne s'est pas séparé de bas en haut, de la terre vers le ciel. Non, il s'est séparé du haut, du ciel, vers la terre. C'est-à-dire que c'est du ciel que Dieu a déchiré ce voile pour dire « Maintenant, tu as un libre accès à Dieu. Tu peux rentrer et me rencontrer. » Lorsque Moïse rencontrait Dieu, c'était là. Et Dieu se tenait, je dirais, la colonne de feu ou de fumée se tenait à partir du couvercle du propitiatoire. Dieu se tenait là. Oh, les autres devaient se dire, ça doit être génial quand même ça. Moïse, raconte-nous comment c'est quand le feu est sur le couvercle du propitiatoire parce que Dieu est présent. Dis-nous, ça doit remuer, ça doit scotcher quand même. Allez Moïse, raconte-nous. Et Moïse était le seul. Après, les grands sacrificateurs, une fois par an. Nous avons la liberté, frères et sœurs, de rencontrer ce Dieu-là à chaque instant. Pourquoi hésitons-nous parfois ? Pourquoi n'utilisons-nous pas ce privilège tous les jours ? Voilà quelques images. Il y aurait plein d'autres images sur le tabernacle qui parlent de qui est Dieu pour nous. Quel est le chemin que nous avons en tant que croyants à faire pour aller vers Dieu ? Je vous invite vraiment à relire ce texte-là et vous dire, est-ce que je profite de tous les privilèges que j'ai en Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons nous placer sous ton regard. Nous sommes émerveillés par le plan de salut que tu as posé de toute éternité et que nous lisons dans ta parole. Donne-nous d'avoir un esprit conduit par ton esprit pour pouvoir saisir l'étendue de ta grâce et de ton amour, la profondeur de ce salut dont nous sommes les bénéficiaires. Seigneur, parle à nos cœurs afin que nous ne passions pas à côté de ta grâce, mais que nous allions le plus loin dans ta révélation, dans ta pensée pour nos vies. Ce tabernacle aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, de nous saisir le plus pleinement possible de ce qui est en Jésus-Christ pour nous. Amen.